Seigneur, nous te honorons. Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, nous te reconnaissons comme notre maître. Merci pour la grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta force. Merci pour ta vie. Merci pour ta sagesse. Merci pour ta direction. Merci pour ta préservation. Merci pour ta sécurité. Que toute la gloire te revienne. Père, prends contrôle encore en ce moment. Père, satisfais-toi de ce temps. Mets-toi au milieu de nous, délivre quelqu'un, restaure quelqu'un, encourage quelqu'un, fortifie quelqu'un et laisse que ton nom soit glorifié en toutes choses. Au nom précieux de Jésus, nous avons adoré et le peuple de Dieu dit Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Bonsoir tout le monde. Alléluia, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Alors, le thème sur lequel, le grand thème, je vais dire le grand thème, Amen. Le grand thème que nous, sur lequel nous allons parler, c'est « Libérer ma famille ». Amen. « Libérer ma famille ». Et le sous-thème sur lequel nous allons beaucoup travailler, sur ce grand thème, c'est « Les hôtels maléfiques de la maison de ton père ». Les hôtels maléfiques de la maison de ton père. Alléluia. Que quelqu'un dit « De mon père ». C'est sérieux, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, nous allons, d'entrée de jeu, essayer de comprendre certains thèmes parce que nous parlons de la libération de nos familles. Il faut déjà que nous comprenions ce que c'est que la famille. Alléluia! Il faut déjà que nous comprenions ce que c'est que la famille. Premièrement, nous devons savoir que la famille est une institution divine. Alléluia! La famille est antérieure à l'Église. La famille est antérieure à la chrétienté. Alléluia. Quand je dis antérieure, ça veut dire que c'est venu avant. La famille est là bien avant que toutes ces institutions qu'on appelle l'Église, qu'on appelle tout ce que nous connaissons, est arrivé. Alléluia. Lorsque Dieu crée l'homme, dans la Bible, Genèse chapitre 1, le verset 26, il dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Alléluia. Et quand il fait l'homme, il les met ensemble et ça devient la première famille sur la terre. Alléluia. Il dit « Dominez, remplissez la terre, assujettissez. » Et tout ça, c'était les missions liées à la première famille qui avait été suscitée, créée par le Seigneur. Alléluia. Donc, d'entrée de jeu, nous devons comprendre que là, lorsque Dieu veut commencer à travailler dans la vie d'une personne, il commence par la famille. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il commence par la famille. Lorsque Dieu veut travailler dans une nation, il commence par une famille. Lorsque Dieu veut travailler dans une entreprise, il commence par une famille. Alléluia. Il commence toujours par une famille. Alors, la famille n'a pas été créée par le diable, mais par Dieu, comme je l'ai dit. L'institution familiale est née avant l'Église et par conséquent, si les choses vont bien dans la famille, elles iront aussi bien partout ailleurs. Alléluia. Elles iront aussi bien partout ailleurs. Alors, si les choses vont mal dans une famille, elles iront aussi mal partout ailleurs. C'est pourquoi le diable a fait de l'attaque des familles une activité à plein temps. Une activité à plein temps. Rappelez-vous dans le livre de Genèse chapitre 12, le verset Genèse chapitre 12, qu'est-ce que le Seigneur dit à Abraham? Genèse chapitre 12, alléluia, permettez que je retrouve le texte rapidement. Le Seigneur va parler à Moïse, à Abraham, en lui disant de quitter la maison de son père et d'aller dans un lieu qu'il le montrerait. Alléluia. Genèse chapitre 12, le verset 1, il dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, donc de ta famille. » Alléluia. Il dit « Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Alors, la suite, c'est quoi? « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alléluia. La bénédiction va transiter par famille. La bénédiction va transiter par famille. C'est la raison pour laquelle vous devez comprendre que si vous êtes béni, c'est votre famille. Quelqu'un n'a pas compris. C'est votre famille. Si les choses ne marchent pas, ça fauche la destinée de la famille. Si une chose vous arrive, ça arrête la destinée de la famille. C'est la raison pour laquelle traiter avec la famille, c'est traiter avec les fondements de sa vie. Est-ce quelqu'un avec moi? Alléluia. C'est très important pour nous. C'est pourquoi ce soir, je voudrais que nous soyons vraiment attentifs à tout ce que nous sommes en train de parler. Et vous voyez, le Seigneur dit que et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, seront bénies. Alléluia. Autrement dit, la bénédiction que Dieu donnait à Moïse, à Abraham, devait influencer, devait continuer à survivre au moyen des familles. C'est pourquoi lorsque Abraham va durer sans avoir d'enfant, il va s'inquiéter. Parce qu'à qui il va remettre la bénédiction? À qui il doit remettre l'héritage de Dieu? Alléluia. Alors, Dieu va lui donner Isaac. Il va donc transiter par Isaac. Isaac va avoir Jacob. Il va transiter par Jacob. Jacob va avoir les patriarches, les 12 enfants. Alléluia. Il va transiter par Joseph. Alléluia. Ainsi de suite. Et à chaque niveau, la famille, Dieu va choisir un membre d'une famille pour pouvoir influencer la famille. Tu as un rôle important dans ta famille. Quel que soit ce qu'on dit sur ton nom, tu as un rôle important. Dis à quelqu'un, tu as un rôle important. Quel que soit ce qu'on dit sur ton nom, quel que soit ce qu'on dit sur ta tête. Est-ce quelqu'un avec moi? Si on vient, on te dit que, ah maman, tu es folle. Et toi, tu t'assois, tu pleures. Tu ne comprends pas ton rôle. Tu ne comprends pas qui tu es. Tu ne comprends pas que toi seul influences la destinée d'une famille. Toi seul peux amener la famille vers le haut. Toi seul peux amener la famille vers le bas. C'est la raison pour laquelle lorsque vous devenez enfant de Dieu, vous donnez le droit légal à Dieu d'entrer dans vos familles. Crois, toi et ta famille, vous serez... C'est pas moi qui ai écrit. Toi et ta... Il n'a pas dit que toi seul, tu vas être sauvé. Et si tu crois toi, ta famille également va hériter de cette opportunité d'entrer. C'est un peu la même chose aujourd'hui quand les gens vont au Canada, par exemple. Si, par exemple, je prends un exemple. Alléluia. Une personne va au Canada. Par exemple, comment on l'appelle? Vanessa va au Canada. Quand elle monte le dossier du Canada, par exemple. Dans les documents, elle met le nom de tous ses frères. Son mari met le nom de tous ses frères. C'est-à-dire qu'il y a une partie dans la documentation où tu dois insérer tous les membres de ta famille. De manière à ce que si demain, ils ont à cœur de venir te rejoindre, leur nom est dans le système. Ça veut dire qu'ils bénéficient du chemin que tu as tracé. Est-ce que quelqu'un me suit? À un moment, on avait ça en Europe, les regroupements familiaux. Ça s'est passé facilement de frère à frère, de soeur à soeur, d'enfant à enfant. Jusqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelques difficultés. Mais pourquoi? Parce que c'est toujours lié à la famille. Parce que la famille occupe une place importante dans la restauration d'une vie. Alléluia. Dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus lui-même, lorsqu'il vient, il ne vient pas dans n'importe quelle famille. Il vient dans la famille de Judas, dans laquelle il a été prophétisé sa venue. Alléluia. Des centaines d'années en arrière. Il est venu comme le fils de David. Alléluia. Héritant du trône de David. Parce que Dieu a promis à David qu'il ne manquera jamais de successeur sur son trône. Alors Jésus, en venant prendre le trône de David, il donnait à David une succession éternelle. Hein? Alors, au travers d'une famille, l'humanité a été sauvée. Au travers de la famille de Judas, le salut est entré dans l'humanité. Quelqu'un n'a pas dit amen. Est-ce qu'au travers de toi, le salut va entrer dans la famille? La guérison va entrer. La délivrance doit entrer. La richesse doit entrer. Vous voyez? Alors, prenons notre premier texte. Essayons de lire Matthieu chapitre 12, le verset 33. Matthieu 12, le verset 33. Alléluia. Matthieu 12, le verset 33. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Matthieu 12, le verset 33? Voici ce qu'il est écrit. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Car on connaît l'arbre par le fruit. Alléluia. Alors, asseyons-nous bien aimés. Car on connaît l'arbre par le fruit. Tous ceux qui sont réunis ici aujourd'hui et qui sont connectés aujourd'hui avec nous, bien-aimés, sont des feuilles d'un arbre généalogique. Alléluia. Toute famille est considérée comme un arbre. Et si l'arbre est bon, les fruits seront aussi bons. Si l'arbre est mauvais, les fruits seront aussi de mauvaise qualité. Alléluia. Il est difficile qu'un père méchant ait un enfant juste. Alléluia. Il est difficile qu'une mère querelleuse ait une fille en paix. Quelqu'un n'a pas compris. Alléluia. Pourquoi? Parce que le fruit n'est que la conséquence de l'arbre. Alléluia. Alléluia. Regardez notre frère Moïse. La colère était enracinée dans leur famille. Il s'est battu comme il a pu. Il a eu une consécration importante comme il a pu. Mais la colère l'a arrêté au dernier moment. Pourquoi? Parce que c'était dans son sang. Alléluia. Alléluia. Alors, quel est l'arbre? De quel arbre viens-tu? De quel arbre viens-tu? On est trop prêté. De quel arbre viens-tu? Alléluia. De quel arbre familial viens-tu? Si tu veux connaître la qualité de l'amertume de ton fruit, discerne l'arbre par lequel tu es venu. Discerne l'arbre par lequel tu es venu. C'est quoi beaucoup de gens? S'ils n'interrogent pas leurs racines, ils ne comprendront pas pourquoi les feuilles sont secs. Ils ne comprendront pas pourquoi les feuilles sont vertes. Alléluia. Il y a des gens, bien-aimés, qui ne font pas les efforts de sanctification que nous faisons, mais qui ont plus de réussite. Pourquoi? Plus tes racines ont été connectées aux forces des ténèbres, moins ta vie sera évidente. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Moins ta vie sera évidente. Si tes ancêtres ont fait le culte des crânes, comme chez nous, en pays Bamileke, l'adoration des collines, des montagnes, je ne sais pas moi, dans quelle région, ou bien l'adoration des pitons. Alléluia. Et bien aimé, demain, 6 générations plus tard, tu donnes ta vie à Jésus, tu crois que tu vas mener ta vie n'importe comment? Tu vas mener ta vie n'importe comment? Non. Il te sera difficile d'avoir certaines choses parce que dans les racines, il y a une sémence qui coule. Il y a une sémence qui coule. Dis avec moi, tout frein satanique, appliqué à n'importe quel domaine de ma vie, ton temps est écoulé. Mais au nom de Jésus, ce qui a freiné mon père, ce qui a freiné mon grand-père, ce qui a freiné mon arrière-arrière-grand-père, ce qui a freiné ma mère, ce qui a freiné l'arrière-arrière-grand-mère, tu ne me freineras pas. Prends feu et libère. 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 Est-ce que je peux t'entendre prier? Est-ce Est-ce que je peux t'entendre prier? Est-ce que je peux t'entendre prier? Est-ce que je peux t'entendre prier? Prends feu, libère! 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 Au nom de Jésus, j'avais ma puissance satanique chargée de déshonorer ma famille. Vous êtes des menteurs. Mourrez par le feu. 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 Est-ce que tu es venu prier? Ouvre ta bouche et prie. Mourrez par le feu. Mourrez par le feu. Mourrez par le feu. Puissance satanique. Chargé de déshonorer ma famille. Chargé de déshonorer ma famille. Qu'est-ce que tu attends? Mets pas le feu. 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 Au nom de Jésus, j'avais-moi Saint-Esprit de Dieu. Lève-toi dans ma vie. Lève-toi dans ma famille. Libère-moi et ma famille. Libère ma famille et moi. Libère ma famille et moi. Libère ma famille et moi. Ouvre ta bouche et prie. 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 Au nom de Jésus. Assois-toi, bien-aimé. Seigneur dit, où que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dit que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. S'il est corrompu, les fruits le seront aussi. Une famille heureuse, c'est le paradis sur terre. Ce sont les prémices du paradis. La famille est le noyau de la civilisation. Pour mettre de l'ordre dans le monde, il faut donc mettre de l'ordre dans la nation. Pour mettre l'ordre dans la nation, nous devons mettre de l'ordre dans la famille. C'est un grand problème pour l'humanité aujourd'hui. Chaque jour, les familles sont mises en cage. Chaque jour, les familles sont harcelées, possédées, ensorcelées, tuées, bouleversées, détruites par le monde des ténèbres. Et nous ne pouvons pas nous concentrer, nous contenter de nous taire, bien-aimés. Non. Aujourd'hui, lorsque nous observons nos familles, nous n'avons pas de raison de nous réjouir. Notre cœur est triste. Nous avons l'impression que nos points de prière tombent dans un trou sans fond. Nous avons l'impression que nos familles restent autant, plus nous cherchons Dieu, plus ils restent dispersés, plus ils restent ennemis, plus ils restent conflictuels. Quoi? Parce que c'est le terrain que Satan a choisi pour mener sa danse. Si vous vous entendez, vous allez prospérer dans la famille. Et si vous ne vous entendez pas, la pauvreté, l'esclavage, la méchanceté va sévir. Le monde des ténèbres va utiliser les uns contre les autres. Et à la fin, qui va gagner? Naturellement, le diable. Alléluia. Et toutes les familles, n'oubliez pas cette phrase, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est le projet du Seigneur. Ta famille doit être bénie à cause de toi. Ta famille doit connaître la paix à cause de toi. Ta famille doit connaître la joie cause de toi. Ta famille doit connaître l'expansion, l'explosion, la prospérité, la stabilité, le mariage à cause de toi. Mais si à cause de toi, les choses, si même avec ta présence, les choses restent les mêmes et même pire, ça veut dire qu'on n'a pas encore mené la vraie bataille. Ça veut dire qu'on n'a pas encore touché le fond du dossier. Ça veut dire qu'on est encore concentré sur nos belles têtes. On a oublié que la cible, ce n'est pas toi. C'est pourquoi je vous dis tout le temps ici, bien-aimé, la cible, ce n'est pas vous. C'est le plan de Dieu dans votre vie. Et le plan de Dieu dans votre vie, c'est votre famille. C'est pourquoi la Bible nous dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. C'est Paul qui le dit. Vous voyez? C'est pourquoi le Seigneur va citer, il va nous donner plein de paroles. Il va nous exhorter à honorer nos pères et nos mères. Alléluia. Il ne dit pas honore ton père s'il est, même si il ne dit pas honore ton père. Si ton père, si ton père est sorcier, déshonore-le. Non. Quelle que soit la nature de qui il est, il représente une valeur spirituelle. Alléluia. Tu ne le respectes pas parce que c'est un homme. Tu le respectes à cause de ce qu'il porte en lui. Amen. Amen. Si tu, ta mère, tu dis, ah, ma mère, c'est une mauvaise personne. Mon père, c'est un mauvais type. Je ne veux rien avoir avec lui dans ma vie. Tu as tort. Tu as échoué le premier combat de ta vie. Tu as échoué. Parce que tu sors de quelle branche? Tu sors de quelle branche? On n'a qu'à te regarder, regarder ton père, on voit la photo. Enlève ton visage, tu dis que tu ne veux plus être de ton père. Amen. Tu as les mêmes yeux de ton père. Quand tu parles, on dit que c'est ton père qui parle. C'est pas ça? L'homme que tu dis que tu détestes, tu as tout son visage. Dieu te regarde, il rit, il dit que regarde-moi celle-ci. En combattant ton père, en combattant ta mère, tu te combats. C'est pourquoi Paul nous exhorte en disant que quoi dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, je crois le verset 12, il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Alléluia. Alors, toute famille a un but. Toute famille a une destinée. Est-ce que vous savez ça? Regardez dans le livre de Genèse chapitre 49. Regardez les prophéties que Jacob a données sur les 12 tribus. Toutes les 12 familles qu'il avait bâti. Regardez dans Deutéronome chapitre 33. Regardez les familles sur lesquelles Moïse va prophétiser. Regardez dans Luc, Matthieu chapitre 1. Regardez toutes les familles qu'on va citer avant la venue de Jésus. Alléluia. Regardez dans le livre de Lévitique, lors des partages du territoire de la terre promise, on a partagé en fonction des familles. Pourquoi? C'est pourquoi Dieu n'a pas permis qu'aucun homme ne vienne sur la terre sans racine. Si Jésus a une racine, même l'enfant qu'on dit PND là a une racine. Alléluia! Parce qu'il n'y a que Jésus qui a été fécondé par le Saint-Esprit. Hein. Tous les autres enfants qu'on met PND là, quelqu'un a fécondé la mère là. Hein. Elle n'a pas dormi comme ça et puis boum. Donc, il n'y a que Jésus qui avait l'opportunité. Tout le reste là, même si on dit, la mère dit, je ne dis pas, il n'y a pas de problème. On met PND. Tu as une racine. Alléluia. Tu as une racine. Tu as une racine. Et notre Dieu connaît cette racine. Alléluia. Alléluia. Alors, lorsque vous regardez Genèse 49, vous voyez les bénédictions que Jacob va prononcer sur chaque famille. Alléluia. Lorsque vous allez dans Deutéronome 33, vous voyez les bénédictions que Moïse, avant de mourir, va prononcer sur chaque famille. Lorsque vous allez dans Genèse chapitre, je crois, 50 ou 51 comme ça, vous verrez comment Joseph lui-même, avant de partir, va prononcer des bénédictions sur les familles. Alléluia. Quoi? Parce que le plan de Dieu est caché dans une famille. Est caché dans une famille. Regardez. Regardez le mystère de la révélation de Joseph. Joseph a eu un songe où il voit quoi? 12 étoiles, c'est ça, n'est-ce pas? C'est 12. Le soleil et la lune. C'est ça? Regardons, j'ai l'impression que vous n'êtes pas sûr. Est-ce qu'on est même concentré? Vous êtes concentré? Vous me suivez? J'ai l'impression que vous dormez, Seigneur Jésus. Je ne sais pas si les, nos frères nous suivent aussi en ligne, parce que j'ai l'impression qu'ils dorment. OK. On va sur les Joseph. Amen. Genèse chapitre 40, 36, je crois. 36. Non, 32. C'est 30 combien? Joseph, 37. Alléluia. Regardons, 37. Genèse 37. C'est ça? Non. Je suis à... Oh, les lecteurs de la Bible, si, hein? OK, 37. On y est. C'est 37. Amen. Alors, le verset 9. Il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles. Ce n'était pas 12, les amis. OK. Et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Amen. 11 étoiles. Attention. 11 étoiles, c'est ça, n'est-ce pas? Alors, Jacob avait combien d'enfants? Alors, si 11 étoiles s'est prosternées, il restait combien pour que ça atteigne 12? Une étoile. Ça dit que Jacob lui-même était, et Joseph lui-même était quoi? Voici une famille d'étoiles. Chaque personne dans une famille est une étoile. Mais chaque étoile a un but, a une luminosité, a une manière d'opérer. Mais le problème qui va se retrouver ici, c'est que les autres étoiles, les 11 étoiles, vont décider de combattre l'unique étoile qui était là au milieu d'eux. Voici des étoiles qui combattent une étoile. Voici des étoiles qui envient une autre étoile. Bien-aimé, tu es une étoile. Tu n'as pas envié une autre étoile. Tu es une étoile, tu n'as pas envié une autre étoile. Maintenant, chaque étoile a sa spécificité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chaque étoile a sa spécificité. Et c'est très important. Si tu ne comprends pas que tu as ta spécificité, tu auras des problèmes avec tes frères et sœurs. Tu vas passer le temps à combattre tes frères et sœurs. Tu vas passer le temps à combattre tes frères et sœurs. Pour rien. Pour rien. Alléluia. Alléluia. C'est quoi je voudrais t'encourager ce soir? À comprendre ta spécificité, ta spécialité. Dans quoi es-tu spécial? En quoi es-tu spécial? Regardez, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 41. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit ceci, 41. Il dit, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Il dit, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Alléluia. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Paul. Il dit, même une étoile diffère en éclat. Alors, l'éclat de l'étoile de maman Gertrude est différent de l'éclat de l'étoile. Je ne connais pas le nom de sa sœur. Alléluia, donne le nom de ta sœur. Hein? Dorothée. Vous êtes combien? Vous êtes combien? En tout, les enfants, vous êtes combien? 5. Ils sont 5 étoiles. 5 étoiles que Dieu a données. Maintenant, l'éclat de maman Gertrude est différent de l'éclat de Dorothée. Est différent de l'éclat de Joséphine. Est différent de l'éclat de Bienvenue. Est différent de l'éclat de Simon. Alors, ça veut dire que quoi? Ce que maman Gertrude peut faire, Dorothée ne pourra jamais le faire. Ce que Dorothée fait, Joséphine ne pourra jamais le faire. C'est sa spécificité. C'est sa manière de donner sa lumière. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Paul dit, même une étoile diffère en éclat d'une étoile. En d'autres termes, on n'est pas même. En d'autres termes, on ne peut pas se comparer. On compare les choses qui se ressemblent. On ne se ressemble pas. Seulement le visage. Alléluia. Tu ressembles ta soeur. Oui, on se ressemble parce qu'on sort des mêmes arbres. Mais la manière d'opérer, on est totalement différent. Elle a peut-être le tempérament chaud. Celle-ci a le tempérament calme. Celle-ci a équilibré les deux. Celle-ci a un en haut et l'autre en bas. Tu vois comment Dieu fait pour que vous ne vous cogniez pas les têtes. Caïn était quoi? Hein? Caïn était quoi? Cultivateur. Amen. Abel était quoi? Berger. Vous voyez? Ésaü était quoi? Chasseur. Jacob était quoi? Ménager. Il était aux travaux ménagers. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, chacun avait sa manière et sa sensibilité pour travailler. Si je te donne 10 000, j'ai dit, OK, prends ces 10 000, va faire à manger à tout le monde. Ta manière de faire à manger va être différente de l'autre. Tu vas peut-être prendre les 10 000, tu vas aller au marché, acheter les gros poissons. C'est ta manière. Tu vas dire non. Si je mise sur les gros poissons, tout le monde va avoir une portion. Même s'il ne mange pas le riz, il n'y a pas de problème. Je donne les mêmes 10 000 à une autre personne. Il va dire non. Bien, on met beaucoup de riz. Et puis, on met un peu de poisson fumé à la base. Et le reste, je mets un peu l'eau glacée, tout le monde boit. C'est sa part. Est-ce que quelqu'un me suit? Et l'autre, il va dire, l'autre va prendre 10 000, il va venir dire que bon, moi, je n'ai pas le temps, prends 1 000 francs, prends 1 000 francs, prends 1 000 francs. Le reste, je n'ai pas avec. Alléluia. C'est chacun sa manière de travailler. Vous allez voir maintenant dans les familles une mauvaise rivalité, une rivalité maléfique va naître au moment où le parent, voyant que l'autre donne travail et obéit, dit que tu aimes trop. Et Satan va amplifier ça. Et c'est ce qui va se passer avec les frères de Joseph. Joseph, travaillant, écoutant, obéissant à son père, les autres vont le prendre par envie, jalousie. Oh, voici des étoiles qui jalousent l'autre. Pourquoi tu veux combattre ton frère? Tu es une étoile. Or, le risque de combattre une étoile, c'est que votre lumière s'éteigne. Oh! Alors, si tu combats ton frère, ta lumière s'est diluée en obscurité. Et qui est le maître de l'obscurité? Alléluia. Alléluia. C'est la raison pour laquelle chacun ici est une étoile, a une étoile. Quand on dit a une étoile, c'est tu es une étoile. Amen. Tu es une étoile. Et l'éclat de ta destinée n'est visible que par ce que Dieu a tracé sur ton chemin. Alléluia. Il y a une catégorie de personnes qui vont te voir dire, waouh, tu as quelque chose de spécial, je vais te suivre. Il y en a d'autres que Dieu va cacher l'éclat de ton étoile à eux parce qu'ils sont un danger pour ta destinée. Les héros ne verront pas l'éclat de ton étoile. Mais les marges qui doivent te bénir, qui sont des aides divines de Dieu, verront l'éclat de ton étoile. Tu n'as pas compris. Je prophétise des aides divines dans ta vie. Qu'ils voient l'éclat de ton étoile. J'ai dit qu'ils voient l'éclat de ton étoile et qu'ils apportent le soutien de l'Éternel là où tu as besoin au nom de Jésus. Je te déconnecte et j'aveugle tes érodes au nom de Jésus. Alléluia. Sois-toi bien-aimé. Vous voyez? C'est très important. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Alors, vous comprenez que le champ de bataille, ce n'est pas toi, c'est une famille. Satan savait, il croyait qu'en divisant la famille de Jacob, il détruisait la prophétie de Dieu dans la famille. Alors, si vous allez Genèse chapitre 50, regardez, allons au Genèse chapitre 50, vous allez comprendre. Alléluia. Genèse chapitre 50, Isaac meurt, alléluia. Jacob, je veux dire Jacob meurt, amen. Alors, écoutons la suite. Écoutons la suite. À partir du verset 14, Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui, avons fait. Regardez, et ils n'avaient pas oublié le mal. Mais Joseph, qui avait compris qu'il était une étoile et qu'il avait compris que tout ce par quoi il était passé était lié à sa destinée. Alors, quand tu sais que ce qui se passe est lié à ta destinée, tu n'en veux à personne. Quand tu en veux aux gens, c'est parce que tu ne sais pas où tu vas. Écoutez la réponse de Joseph. Une fille dit à Joseph, ton père, c'est-à-dire qu'il manque, il manque. Que leur papa, avant de mourir, a dit que pardon, ne nous tue pas. Alléluia, pardon. Joseph va comprendre. Il va dire ton père. Il dit ton père, il n'a pas dit notre père. Il dit ton père. Pour dire à Joseph, pardon, nous sommes tes esclaves. On n'est même pas digne d'être tes frères. Ton père a dit que, alléluia, a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Comment ton père va dire aux esclaves quelque chose qui devait être dit? Ça a un sens. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils ont fait, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Maintenant, ils s'appellent les serviteurs. Maintenant, ils disent qu'ils sont serviteurs. Au départ, ils disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, alors qu'avant, ils étaient quoi? C'est pas possible. Je vois tes ennemis s'appeler serviteurs de Dieu. Il dit, serviteur du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et il dit, nous sommes tes serviteurs. Nous sommes tes serviteurs. Écoutez le verset 19. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Autrement, Joseph était en train de dire, la personne qui doit être reconnaissante entre vous et moi, c'est moi. Vous avez fait de moi ce que je suis. Par votre haine et par votre méchanceté, vous m'avez rendu, vous m'avez donné d'accomplir le plan de Dieu. Alléluia! Alléluia! Es-tu une étoile? Est-ce que tu es une étoile? Non, je ne suis même pas sûr. Alléluia! Est-ce que tu es une étoile? Joseph était en train de dire, j'ai arrêté de me plaindre depuis le jour que je suis venu en esclavage. Je me plaignais. Je me plaignais, pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi les gens me veulent du mal? Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi même mes frères? Et j'ai arrêté, j'ai commencé à bénir Dieu parce que j'ai vu sa fidélité. J'ai compris que vous n'étiez que les instruments pour me conduire là où mon étoile va briller. Tes batailles, tes oppressions, tes oppositions, quel que soit le nom qu'on leur donne, bien-aimé, te conduisent quelque part. Il y a un endroit où tu dois être pour briller, mais tu ne peux pas aller par toi-même. Je vous ai toujours dit, un pasteur avait fait cette prédication un jour, que de tous les disciples de Jésus, celui qui aimait Jésus, c'était Judas. Alléluia. Moi, on était choqués. Il dit, quand tu aimes, tu donnes le prix. Tu valorises avec le prix. Amen. Lui, il a dit que Jésus coûte 30 pièces. Alléluia. Les frères de Joseph ont dit, Joseph coûte 30 pièces. Eux-mêmes l'ont vendu à 30 pièces. Hein. C'était prophétique. Donc, leur amour était grand. Ils disaient que Joseph, vraiment, il va accomplir ta destinée. Au moins, ça nous rapporte quelque chose. Mais même ta mort, ça ne nous rapporte rien. Alléluia. Cette situation ne te détruira pas. Cette opposition ne te détruira pas. Cette stagnation ne te détruira pas. Dieu a un plan pour ta vie. Alléluia. Écoutez, mes bien-aimés. Toute famille a un programme divin. Parce que le diable connaît, c'est important. Il s'efforce de tuer les familles et de les arrêter. C'est pourquoi si deux veulent se marier, si deux personnes veulent se marier et que le diable voit que ce serait très risqué pour leur, pour son royaume, il va essayer d'empêcher qu'ils se marient. S'ils se marient, il va essayer d'attaquer le fruit des entrailles. Le diable essaye donc d'empêcher les bonnes familles de se former et si la famille est formée, il planifie des termites dans leur généalogie. Les termites, c'est quoi? Ils rongent. Il ronge la fondation. Le jour où tu vas mettre le quatrième niveau de la famille, tout s'écroule. Tu dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens d'une de mes filles que j'avais donné un programme de prière et elle a eu un songe, elle est venue me voir. Elle s'est retrouvée dans leur concession familiale et elle a vu des termites qui avait rongé toute la maison familiale. Rongé. Elle dit, mais c'est quoi ça? Je lui ai dit, ma fille, vous n'avez plus de fondation. Les termites ont tout dévoré. Ont tout dévoré. Il faut bâtir, à partir de Christ, une nouvelle fondation. Alléluia. Alléluia. J'avais moi toute termite satanique programmée dans ma fondation pour affaiblir les piliers de ma famille. Près de feu. Ouvre ta bouche, je prie. Ouvre ta bouche, je prie. Shakalabakata. Shalabababababababababababa. Reketelekete labababababa. Shakalabakata. Shalabata lekete. Rekete pakata. Shalabakata lekete. Shalabakata. Au nom de Jésus. Assois-toi, bien-aimé. Et donc, le diable essaye comme ça de ronger. Il plante ses termites dans l'arbre généalogique. Les termites dans l'arbre généalogique sont une source de problèmes réels. Rappelez-vous dans le cas de Géasi. Géasi va être un instrument de l'ennemi pour s'aimer quoi? La lèpre dans sa famille, comme une termite. Alléluia. Il est allé chercher une malédiction qui s'est transmise. Qui s'est transmise à toute sa famille. Deux Rois chapitre 5. Vous lirez cette histoire là-bas. Deux Rois chapitre 5, Deux Rois chapitre 6. Alléluia. Achan était une termite dans son arbre généalogique. Josué chapitre 7. Alléluia. il est allé prendre l'interdit, il l'a ramené dans sa famille, et à cause de ça, toute sa famille a été tuée par lapidation. Alléluia. Alors, les termites sataniques sont comme des gommes sataniques dans la famille qui effacent toutes les bonnes personnes et tuent toutes les personnes prospères. Et il peut y avoir comme ça un squelette familial qui détruit la famille. Je vais prier pour quelqu'un ce soir. Je vais prier pour quelqu'un. Que tout homme fort attaché à ta lignée familiale, qui fait que les échecs se répètent, que les problèmes se répètent, amen, puissant, amen, cet homme fort meurt au nom de Jésus. Cet homme formé au nom de Jésus. Cet homme formé au nom de Jésus. Cet homme formé au nom de Jésus. Alléluia. Assois-toi, bien-aimé. Il se peut qu'il y ait un ange dans la famille. Soit un bon, soit un mauvais. Je prie pour toi. Qu'il y ait des bons anges dans ta famille. Que des anges du Seigneur visitent ta famille. Au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel va visiter la maison de Corneille pour le salut de toute sa famille. Ce n'était pas le salut de Corneille. Acte chapitre combien? 9 ou 10? Petit test, c'est quoi? 9 ou 10? 9 ou 10? Les enfants de l'apôtre. Alléluia. Alors, 9 ou 10? 10. Alléluia. C'est des pattes, c'est des textes que vous devez connaître. Amen. Vous devez connaître l'histoire de Corneille. Acte chapitre 10. Et donc, vous voyez clairement ici que l'ange va visiter la maison de Corneille. Et l'ange va dire à Corneille par qui la délivrance de sa famille devait arriver. Alléluia. Il va dire, va à telle adresse. Il y a un homme là-bas, il s'appelle Pierre. Dis-lui de venir. Et il te dira les choses. Et Pierre est venu dans cette maison. Le salut est entré dans toute la famille. Alléluia. Je déclare que l'ange de l'Éternel rentre dans ta famille. Que l'ange de l'Éternel soit commissionné dans ta famille pour apporter la délivrance, pour apporter le salut, pour apporter la restauration, pour apporter la vie en Christ au nom de Jésus. Alléluia. C'est lorsqu'un arbre généalogique est pollué, bien-aimé, nous devons faire des prières sérieuses. La Bible dit, en ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacé. Jérémie chapitre 31, verset 29. Un coup d'œil à votre arbre généalogique vous révélera des choses. À moins que tu ne veuilles pas te tromper toi-même. La Bible parle de l'iniquité qui est visitée. Regardez ce qu'elle dit dans Job chapitre 21. Job chapitre 21, le verset 19. Il dit, est-ce que les fils que Dieu réserve, est-ce pour les fils que Dieu réserve le châtiment du Père? Pour les fils que Dieu réserve le châtiment du Père, mais c'est lui que Dieu devrait punir pour qu'il le sente. Alléluia. Alors, faisons une parenthèse. C'est quoi l'iniquité? Parce que nous parlons beaucoup d'iniquité. Et parfois, nous confondons l'iniquité et le péché. Nous mélangeons tous ces deux thèmes-là ensemble. Premièrement, vous devez savoir que l'iniquité imprègne l'esprit humain au moment de la conception. Amen. Ce quoi nous héritons du péché d'Adam et Ève, c'est l'iniquité. C'est dans notre ADN. Ce quoi la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Le moment où tu sors du ventre de ta mère, tu es fécondé là, tu es déjà fécondé là le premier jour. Tu es déjà pécheur, tu es pécheur, tu as besoin de Jésus. Tu sors du vent là, on doit te prêcher Christ. Alléluia. Alléluia. Et donc, à ce moment-là, toutes les données spirituelles ou l'héritage spirituel du mal sont établies en la personne. L'iniquité fonctionne comme un cordon ombilical spirituel qui transmet l'ADN spirituel du mal d'une génération à l'autre. Alors, Aucune maman ici ne peut pas reconnaître qu'à un certain moment de l'allaitement de leur bébé, le bébé n'a pas mordu son sein. Alléluia. Aussi petit qu'il est, quand il mord, il te regarde, il sourit. Tu sens qu'il sait. Alléluia. Il a la conscience du mal. Et ça, on est ensemble. L'enfant est tout petit. Il a un mois. C'est à combien de temps que les dents là sortent, les amis? 4 mois. Mais avec les dentitions sans dents là, il mord. Parce que c'est un peu comme la gomme. Amen. Et ça fait mal. Ça fait mal. Et parfois, tu es obligé de taper un peu. Hé, hé. Alléluia. Donc, tu réalises à ce moment qu'il a déjà la conscience du mal. Alléluia. Il a déjà cette conscience. Donc, à ce moment-là, l'iniquité est en lui. L'iniquité est en lui. Rappelez-vous ce que David va dire. Il va dire que ma mère m'a conçu dans quoi? Ok, les amis. Somme chapitre 50 combien? Hein? Regardez-moi ça. 51. Amen. Ma mère m'a conçu. 51. C'est quoi? Verset. Lis.
Voici, je suis né dans l'iniquité.
Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu
dans le péché.
Deux choses différentes. Je suis né. Bien-aimé, chacun ici est né dans l'iniquité. Ça ne dépend pas de toi. Alléluia. C'est quoi l'iniquité? C'est transmis générationnel. Le péché ne l'est pas. L'iniquité est générationnelle. Ça se transmet. C'est pourquoi Dieu punit l'iniquité des pères sur les filles jusqu'à la quatrième génération. Regardez. Jérémie chapitre 17, le verset 1. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de leurs autels. Sur les cornes de leurs autels. L'iniquité, c'est ce qu'on appelle le corps du péché. Alléluia. Le corps du péché. Et l'apôtre Paul parle de ça comme une loi. Comme une loi qui habite en nous. Parce que l'iniquité transmet la loi du mal, la loi du péché. Amen. Et vous allez voir, ça va être inscrit dans votre famille, vous devez vous prostituer de génération en génération. Dans votre famille, vous devez être des personnes qui boivent jusqu'à ce qu'ils ne finissent pas. La vente à portée, ils ne vont pas s'arrêter. Alléluia. Amen. Romains chapitre 7, le verset 14 à 15. Romains 7, le verset 14 à 15. Et le verset 19 à 20. Amen. 19 à 20, il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Amen. Cette loi, elle est spirituelle. Il dit, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. C'est compliqué. Le verset 19 dit ceci, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. C'est une loi. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ça, c'est l'iniquité. Et donc, à côté de ça, le péché signifie quoi? Le péché veut dire simplement manquer le but. Amen. Manquer le but. Manquer le but. En d'autres termes, le péché, c'est l'égarement du droit. C'est par Dieu. L'égarement du droit chemin tracés par Dieu. Alléluia. Alors, le chemin est comme ceci. Toi, tu décides d'aller comme ça. Tu pêches. Tu pêches. Regardons ça un peu dans le livre de 1 Jean chapitre 3. Que dit 1 Jean chapitre 3, le verset 4? Le verset 4 dit, quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Alléluia. Est la transgression de la loi. Jacques chapitre 1, le verset 14 à 15. Jacques 1, le verset 14 à 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. La convoitise, c'est quoi? C'est la luxure. Alléluia. La dépravation. La dépravation. Il dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Alléluia. Alors, arrêtons-nous. Reprenons encore. Que nous devons nous comprendre dans la différence entre le péché et l'iniquité? Premièrement, le péché est commis hors du corps, mais l'iniquité est le péché ou le mal qui habite en toi. Alléluia. Le péché est commis hors du corps et l'iniquité est le péché ou le mal qui habite en toi, qui habite en toi et que tu pratiques. Alléluia. Alors, je prends un exemple. Si il peut arriver dans ta marche que tu mentes. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est enfant? Allons-y. Tu mentes. Mais lorsque tu commences à pratiquer le mensonge tout le temps, ça devient l'iniquité. Tu vas transmettre ça à tes enfants, eux-mêmes vont mentir. Abraham a menti, Isaac a menti, Jacob a menti, etc. Jacob a menti, ses enfants ont menti que leur frère est mort. C'est pas ça? Alors qu'il avait vendu en esclavage. Donc le péché, l'iniquité, le péché est devenu iniquité à quatre générations. Quelqu'un va dire, c'était un petit mensonge. Attention. Le péché, tu peux manquer le but. Tu peux te tromper maintenant. Tu mens. La minute d'après, quand tu te ressaisis, repends-toi et ne le refais plus. Amen. Et ne le refais plus. Mais si tu fais aujourd'hui, dans 2 jours, tu fais encore dans 4 jours, tu fais encore dans 10 jours, tu fais encore, tu es en train de bâtir cela en toi. Alléluia. Maintenant, il te sera difficile de connaître la miséricorde de Dieu. Alléluia. Le péché va devenir habitude et ça va devenir l'iniquité. Et là, tu n'auras plus de problème avec la justice de Dieu. Tu vas dire, ah, la première fois, Dieu n'a rien fait. La deuxième fois, il n'a rien fait. Ça va. Donc, alléluia. C'est pourquoi Jacques et David va dire, je suis né dans l'iniquité. J'ai été conçu dans l'iniquité. Je sors d'une racine impudique. Mon ancêtre était prostitué. Rab. Amen. Ensuite, Moab, Ruth. Amen. L'arrière-grand-mère de Jésus était Ruth. De David était Ruth. C'est pas ça? Une tribu impudique. Alors, c'est pourquoi il dit que je sors d'une lignée où cette histoire-là était habituelle. C'est, on nage dedans, on boit ça, c'est notre eau de naissance, notre baptême de feu. Alors, si tu veux identifier l'iniquité dans ta famille, regarde le péché qui est le plus pratiqué dans votre famille. Amen. Regarde les actions qui ont été pratiquées, le plus pratiquées dans la famille. Dans certaines familles, comme dans la famille de Moïse, c'était la colère. Amen. Dans la famille d'Abraham, c'était le mensonge. Alléluia. Dans d'autres familles, ça peut être l'alcool. Dans d'autres familles, ça peut être une mauvaise vie. Amen. Dans d'autres familles, ça peut être la sorcellerie, la méchanceté, l'avarice, le manque de pardon, la dépression. Il y a des familles dépressives. Hein? Tout le monde est dépressif dans la famille. Alléluia. 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 Donc, si le péché est semblable à un fruit, vous devez savoir que l'iniquité est le péché qui prend racine. Alléluia. L'iniquité est le péché qui prend racine et qui habite en nous. Alors, ce qui va de génération en génération, ce n'est pas le péché commis, mais l'iniquité. Mais l'iniquité. Alors, faisons attention. C'est pourquoi quand vous entendez Daniel prier dans Daniel chapitre 9, vous voyez Néhémie, Daniel chapitre 1, c'est pourquoi je conseille les prières de Daniel et de Néhémie pour contester avec l'iniquité dans vos familles. Amen. Si tu veux prier pour des péchés générationnels, tu dois te tenir sur les mêmes points de prière de Daniel. Alléluia. Tu dois utiliser Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9 traite avec l'iniquité générationnelle. L'iniquité, le péché générationnel. Alléluia. Et même Psaume chapitre 51. Et même Psaume chapitre, je crois, Psaume chapitre 32. Alléluia. Psaume chapitre 32. Oui, Psaume chapitre 32. Il dit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Il n'y a point de fraude. Un esprit inique est un esprit de fraude. Quand le péché de l'iniquité dans votre vie, vous avez fraudé la loi de Dieu. Et vous êtes sous le jugement. On peut avancer? Vous voyez que c'est sérieux ce dont nous parlons. La famille. Quelle est l'iniquité de vos familles? Vous ne pourrez pas prier efficacement pour vos familles si vous ne connaissez pas l'iniquité de vos familles. Alléluia. Si vous ne connaissez pas l'iniquité de vos familles, vous ne prierez pas avec efficacité. Efficacité. Voyez, le verset 4 de Daniel, chapitre 9. Il dit, je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Verset 5, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants. Ça veut dire que de génération, la méchanceté était leur problème et la rébellion. Il dit, nous avons été méchants et rebelles. Un rebelle. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Maintenant, il explique cela. Il dit, nous n'avons pas écouté tes prophètes, tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Alléluia. Quelle est l'iniquité de ta famille? Quelles sont les iniquités de ta famille? Quelle est l'iniquité de ta famille? Qui connaît l'iniquité de sa famille ici? Papa Joe, l'iniquité de ta famille, c'est quoi? La résignation. Résignation, ça veut dire... On est venu accompagner les autres, la résignation. Non, ce n'est pas... Ça, c'est une conséquence de l'iniquité. C'est-à-dire qu'à force d'avoir éprouvé un certain nombre de choses, les gens se sont résignés. Mais quelle a été la source? Quelle a été la source de cette résignation? Qu'est-ce qu'on a posé comme action qui a fait que la main de Dieu s'est déployée contre la famille de manière à ce qu'aujourd'hui, parce que si tu lis Juges chapitre 6, vous verrez Gédéon qui était dans la résignation. Mais, alléluia, est-ce que tu comprends? Gédéon était dans la résignation au point de se cacher pour battre le froment. Alors, l'ange de l'Éternel lui dit que vaillant héros, va avec la force que l'Éternel t'a donnée. Et lui dit que, mais quelle force? Je suis dans la résignation. Quelle force! Mais si vous lisez les versets 1, les versets 2, vous allez comprendre que la Bible a dit que le peuple d'Israël va pécher contre l'Éternel et l'Éternel va les livrer entre les mains des Madianites pendant 7 ans. Alors, c'est la conséquence de cet esclavage qui va produire la résignation. Est-ce qu'on est ensemble? Ok, tu veux dire quelque chose? Tu peux prendre un micro, s'il te plaît. Alléluia. Ce que nous partageons profite à d'autres aussi.
La résignation, donc, venait du fait que il y a personne qui veut sortir du lot. C'est-à-dire, on se rend compte que tel n'a pas réussi. Bon, c'est notre famille, c'est comme ça.
Non. Famille, je ne sais pas si tu arrives à comprendre. Quelle a été la source de tous ces problèmes? Pourquoi la main de Dieu s'est éloignée de la famille? Quelles sont les actions qu'ils ont posées qui ont fait que la main de la grâce et de la faveur de Dieu s'est éloignée de la famille? Ce que tu expliques, c'est les conséquences. Alléluia. Oh, tant que tu n'as pas les causes, tu ne peux pas apporter meilleur médicament pour ta situation. Alléluia. Les causes, ça peut être quoi? L'idolâtrie. Les causes, ça peut être quoi? L'abandon de la loi de Dieu. Les causes, ça peut être quoi? La méchanceté. Les causes, ça peut être quoi? La jalousie. Les causes, ça peut être quoi? Le mensonge. Alléluia. Les causes, ça peut être quoi? L'impudicité. Alléluia. L'impudicité, la polygamie. Les causes, ça peut être quoi? Les viols, les meurtres. Alléluia. Il y a des familles bien-aimées. Alors, toi, peut-être tu es ici, tu connais ta génération. Tu as une idée de ta génération. Mais tu n'as pas une idée de ta génération, de la cinquième génération avant toi. Alors, ça peut être que dans cette génération-là, les gens ont commis une action terrible. Puisque ce n'était pas encore un Cameroun sur le plan administratif comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à une certaine époque, on pouvait encore tuer quelqu'un sans que la police vienne t'arrêter et te mettre en prison. Alors, peut-être qu'ils ont commis un meurtre. Peut-être dans cette région où vous habitez, les gens ont dit, pour la prospérité des 100 prochaines années de notre terre, nous allons enterrer les gens vivants. Et ça fait que l'endroit-là, tout ce que vous allez faire là-bas, ne marchera jamais. Parce que cette terre a bu du sang innocent. Est-ce que tu es en train de comprendre maintenant? Ce sont les causes. Alors, si tu veux rentrer dans la délivrance de ta famille, en d'autres termes, ta propre délivrance, parce que ta vie y est attachée, est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois comprendre ça. Alors, parfois, tes parents ne peuvent même pas être au courant. Parfois, il n'y a personne, mais il y a une seule source qui peut t'aider, le Seigneur. Alléluia. Une source qui peut t'aider. Parfois, nous prions. Il y a des délivrances extraordinaires dans nos vies, mais les choses ne déclenchent pas toujours. Est-ce qu'on est ensemble? Les choses semblent toujours aussi compliquées qu'avant. Il y a des fondements plus anciens. Il y a des choses que nous n'avons pas remonté devant le Seigneur. Vous dites, Seigneur, nous demandons. C'est pourquoi je vous encourage à méditer Daniel chapitre 9. Méditez-le à partir de ce soir. Méditez-le. Daniel chapitre 9. Méditez-le. Et des années en arrière, un ancêtre a pris la femme de quelqu'un. Tu étais au courant? Il a volé la femme de quelqu'un, puisqu'on volait les femmes des gens. Amen. L'autre là a fait des imprécations, a dit que personne des enfants de cette famille ne va jamais être prospère. C'est devenu votre affaire. J'ai connu une famille comme ça. On a enterré le chien. L'ancêtre a enterré le chien. Ça fait que tous les enfants de cette famille sont devenus comme des chiens impudiques. Ils vivent que dans l'impudicité. Personne n'arrive à se marier. Personne n'arrive à rester dans un foyer. Et quand nous avons travaillé, cette sœur est rentrée dans son village. On lui a raconté l'histoire. Et on lui a dit, effectivement, notre ancêtre avait, parce qu'on avait volé sa femme, il a enterré le chien. Et eux, ils sortaient de cet enfantement-là. Toi, si Dieu ne t'aide pas, tu vas savoir comment. Tu vas regarder qu'à ton niveau, non? Tu vas regarder au niveau de ton papa, de ta maman, mais après eux, là, tu ne connais rien, c'est noir. L'information est noire. Mais je vous assure, si vous vous tenez dans ce temps de prière-là, avec Daniel 9, et que vous sondez la présence du Seigneur, il vous montrera des choses. Alléluia! Il vous montrera des choses. Il vous ramènera là où vos parents n'ont même jamais connu. Viens voir. Connais un frère? Il avait prié comme ça. Et une nuit, le Seigneur, il a eu un songe et quelqu'un est venu le prendre. Et lui a dit, tu veux savoir? Il dit, oui, Seigneur. Il dit, tu veux voir? Il dit, oui, Seigneur. Il dit, viens. Il a amené quelque part. Il y avait un mur. Il a percé. Il a pris un bâton. Il a percé le mur. Il a dit, mets l'œil et regarde. Il a mis l'œil, il a regardé. Il a vu sa propre mère en train de taper les gens comme une esclavagiste. Il y avait des esclaves, elles tapaient. Les gens avançaient, enchaînés. Et c'était les membres de la famille. Alléluia. Et quand il a vu ça, il a compris que dans sa famille, les gens étaient des vendeurs d'esclaves. Des vendeurs d'esclaves. Il y a des familles à l'ouest, il y a des familles qui se sont enrichies sur l'esclavage. Mais toi, tu ne connais pas. Est-ce que vous savez que mon village, Banjoun, en bas, toi, ça veut dire les gens qu'on a achetés. C'est pourquoi à Banjoun, les gens ont plusieurs origines. Parce que le chef, le premier chef, il était chasseur. Il attrapait un gibier. Il partait échanger contre des esclaves pour constituer son village. Alléluia. Et son ensemble. Et si tu ne connais pas ton histoire, tu ne peux pas savoir où tu vas. Nous parlons là de la libération de nos familles. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce chef n'ayant pas gagné la succession dans son village à lui, parce que le village Banjoun vient de Baleng. Alléluia. C'est quoi? Chaque fois qu'il y a l'intronisation d'un chef, le chef Baleng vient le faire asseoir. Alléluia. Et le chef Bafoussam vient aussi s'associer à lui. Parce que c'est une même racine. C'est une même racine. Le chef Bafoussam, quand on veut le faire à soi, le chef Baleng vient. Parce qu'ils viennent de Baleng. Est-ce que je me trompe? Est-ce que quelqu'un me suit? En d'autres termes, si on va dire par rafistolage, on va dire que nous sommes les petits-fils de Balaam. Alléluia. On va dire que notre racine est à Balaam. On va dire que si quelque chose, si nous on veut que notre vie avance, on doit aller à Balaam faire un sacrifice. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un? C'est pourquoi si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu vas. Nous parlons des familles. Nous parlons des familles. Nous parlons des familles. Ça ne te concerne pas. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Quitte. Là, rien ne peut se passer. Quelle que soit l'onction qui est sur ta vie, rien ne peut marcher. À partir de toi, je vais créer une nouvelle famille. Alléluia. Dieu est sur le point de faire quelque chose dans ta vie. J'ai dit, Dieu est sur le point de faire quelque chose dans ta famille.